Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully, with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com.
Douceur, émotion, cocooning sont des mots que vous utilisez pour décrire votre mood quand vous écoutez Tant que je serai noir. Si vous êtes à court d'infusion, de chocolat ou de miel pour vous mettre encore plus dans ce mood, faites un tour sur l'e-shop Tant que je serai noir. Vous pourrez soutenir le média et des marques portées par des femmes inspirantes.
Je ne veux pas peut-être faire d'enfant parce que voilà, c'est pas quelque chose que je sens dans ma chair.
Je sais pertinemment qu'aujourd'hui à 31 ans, j'en veux pas. Mais j'ai peur du réveil plus tard, s'il y en a un.
Le sentiment que j'ai toujours eu, c'est que quand j'aurai 20 ans, j'aurai une fille et je l'appellerai Margot.
Et par contre, moi, j'avais aucune intention de porter un enfant et qui là, maintenant, est d'autant plus officiel que j'ai donc subi une hystérectomie.
Je peux en parler parce que je suis enceinte d'un deuxième enfant, mais que ça a été très compliqué, en fait, de réfléchir ce désir. Il y a cette idée qu'une famille idéale, c'est deux enfants.
Je suis Tipora, hoste du podcast « Tant que je serai noire, serai-je mère ?» Le podcast qui invite anonymes, autrices, psy et militantes à s'interroger sur le désir ou non-désir d'enfant. Le SOPK, syndrome des ovaires polykystiques, touche environ 10% des femmes d'après l'INSERM. Un des symptômes est la rareté ou l'absence d'ovulation qui se traduit par des cycles irréguliers, longs, de plus de 35 à 40 jours. Et chez certaines personnes, cela peut se traduire par l'absence totale de règles. Ces troubles provoquent une infertilité chez environ la moitié des femmes présentant un SOPK. Cerise, atteinte du SOPK, nous explique comment sa rencontre avec la maternité a été une surprise. Elle nous parle de son accouchement et surtout de sa vie de jongleuse. Nous avons enregistré un épisode live en novembre 2022 chez Mona, dans le 6e arrondissement de Paris. Ne soyez donc pas surprise par les petits bruits qui accompagnent notre belle discussion. Bonne écoute!
Donc je m'appelle Cerise, j'ai 32 ans, je suis accessoirement maman, mais ici j'ai le droit de ne pas forcément le préciser. Je suis influenceuse professionnelle depuis 3 ans, donc je vis de ma création de contenu sur Instagram et sur YouTube, voilà.
La première question que j'ai, c'est de savoir à quel moment tu as ressenti ce désir de maternité, à quel moment, si tu l'as ressenti, mais à quel moment tu as su que tu voulais devenir maman ?
Alors, moi, ça ne s'est pas forcément fait dans des très bonnes conditions, puisque quand j'avais 16 ans, donc ça remonte quand même, j'ai été diagnostiquée syndrome des ovaires polykystiques par ma gynécologue, qui m'a balancé brut de chocolat comme ça, que je ne pourrais pas avoir d'enfant. Et je n'avais absolument jamais pensé au fait de devenir mère. Et là, en fait, un peu comme le truc que tu n'as pas le droit de manger de bonbons et c'est à ce moment-là que tu as envie d'en manger, et c'est pareil. Là, j'ai pleuré alors que j'y avais jamais pensé, en fait, à être mère. Et je me suis dit, mon Dieu, mais ça va être très, très, très compliqué. Et toutes les personnes qui ont un SOPK savent qu'on n'a pas toujours ses règles. On a ses règles en continu, donc des ménorragies, puis ensuite plus rien, etc. Et des aménorrhées et tout et tout. Et puis après, comme j'ai grandi, ce désir d'être maman s'est un peu effacé, puisque de toute manière, c'était un peu comme une sorte de fatalité. J'en aurai pas. Et je me suis dit, quand ça sera le sujet, ça sera un combat à mener et on verra. Et voilà. Et en fait, ça m'est tombé dessus... comme une surprise.
Je tiens à préciser que je trouve que c'est quand même violent d'entendre ça aussi jeune. Je ne sais pas quel ton a été abordé par le ou la professionnelle.
Je pense qu'elle s'est dit une ado, c'est absolument pas sa volonté actuellement.
Exactement.
Donc peut-être que si j'avais été en âge de procréer, là, ça aurait été peut-être amené plus doucement. Mais sur le moment, elle s'est dit...
Ouais, c'est sorti comme ça.
Ouais, voilà.
Tu apprends ça, mais malgré tout ça, tu arrives quand même à tomber enceinte.
Oui, alors... par hasard, vraiment.
Ah ouais.
Pour le coup, comme j'avais cette fatalité au-dessus de ma tête depuis 10 ans, puisque je suis tombée enceinte à 26 ans, donc depuis 10 ans, on me disait que je ne pourrais pas tomber enceinte. Disons que ma pilule, je la prenais en dilettante quand la plaquette se retrouvait devant mes yeux. Et donc je suis vraiment de celle un peu tête en l'air malgré les alarmes, etc. Mais je n'avais jamais ce truc de si tu l'oublies, tu tomberas enceinte. Parce que je l'oubliais et je ne tombais pas enceinte. Et de toute manière, j'avais ce truc de je ne peux pas tomber enceinte, ça va être un combat. Donc voilà, j'avais très certainement oublié de prendre ma pilule une ou deux fois dans le mois. Et voilà.
Et du coup, ta réaction, ça a eu lieu. Quand tu as découvert
J'étais en vacances en Côte d'Ivoire, d'ailleurs, et du coup avec mon copain de l'époque, donc le père de ma fille actuelle. Et j'avais des doutes parce que j'avais pas mes règles, etc. Et je me disais que c'était comme une blague. Allez, on fait un test de grossesse pour voir le truc négatif. Et en fait, c'était positif. Et j'étais toute seule dans les toilettes, je m'en rappelle. Et j'étais complètement démunie. Et je me suis dit, mon Dieu,
j'y crois pas. Ouais.
Panique sur le moment, grosse panique parce que je venais d'être acceptée dans un nouveau job.
Ah oui.
Enfin, j'étais vraiment très tournée vers ma carrière et ça m'est tombé comme ça dessus en plein début de vacances. Et heureusement, ça a été bien accueilli par mon copain qui m'a dit, bon bah, lui il était étudiant en plus aux États-Unis, on est en relation à distance, donc vraiment il n'y avait rien qui était, le cadre était complètement éclaté, mais ça l'a fait et on s'est dit, ouais, allez, on fait le truc.
Ouais.
Moi c'était beaucoup parce que je m'étais dit, bah, que c'est ma seule chance.
Oui.
Voilà, incontestablement, je ne peux pas nier le fait de m'être dit ça, que... Je me suis quand même posé la question, mais je me suis dit, bon, bah, si j'avorte...
Oui, est-ce que j'aurai une autre chance?
Exactement,
en fait.
Voilà. Donc, je me suis dit, bon, bah, allez, on tente l'aventure. Et quelle aventure!
Tu m'étonnes! Du coup, tu deviens maman à 26 ans?
27, oui, 26,
d'accord.
C'est ça. Ouais, la même
et
année.
Comment ta famille aussi? Parce que du coup, tu étais en relation à distance,
ouais.
Tu n'étais pas préparée,
non.
Et tu n'avais peut-être pas préparé tes proches. Comment est-ce qu'elle a été accueillie, du coup, la petite?
Alors déjà, la nouvelle de ma grossesse, on va dire que mes parents ne sont pas non plus tombés par terre, parce qu'il faut savoir que je suis un peu la rebelle de la famille. Je fais un peu les trucs un peu comme personne. Donc voilà, donc je l'ai un peu annoncé comme ça. Brut de pomme, je suis enceinte et je vais la garder. Et je vais être maman avec un mec qui est à distance. Et c'est comme ça. Donc ils se sont dit, bon, bah ça ou autre chose, voilà. Ils l'ont pris la nouvelle et je leur ai dit, et je ne vais pas me marier. Parce qu'il y a eu aussi ce truc-là de traditions africaines, parce que je suis béninoise et lui, il n'y voit rien. Donc lui, il m'a dit, bah, je vais voir avec mes parents pour qu'on se marie et tout. Et moi, je lui ai dit, non, non. Un enfant, ce n'est pas une erreur à réparer. Voilà, moi, c'était vraiment ça. Et déjà, je me suis dit, je lui ai dit, tu ne comptais pas m'épouser avant que je te dise
donc
que
pourquoi...
je suis enceinte. Donc pourquoi là, tout d'un coup, tu veux te lier à moi pour la vie? Donc c'était hors de question le mariage. Donc voilà, donc j'ai dit à mes parents que voilà comment ça va se passer. Je vais être maman, je suis OK avec l'idée. Je ne vais pas me marier, ça va se faire comme ça va se faire et on verra bien. Et j'ai les finances pour m'en occuper, c'est ça aussi, j'avais cette chance aussi.
Tu avais l'autonomie financière.
Exactement.
Ouais.
Ensuite, j'ai accouché très 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 prématurément parce que je n'ai eu que 6 mois de grossesse. Ouais, elle est grand préma.
Waouh,
voilà.
Je ne savais pas.
Oui,
okay.
Oui. Et 31 plus 5, 31 semaines et quelques. Donc en fait, comment ils l'ont accueillie? Elle est arrivée un peu en catastrophe et elle est arrivée en luttant pour sa vie. Moi aussi, puisque j'ai eu une prééclampsie. Donc je luttais pour ma vie, elle aussi. Donc forcément que c'était très favorable. Enfin, mes proches se sont soudés autour de nous. Puisque nos vies étaient en danger, en fait. Donc voilà, et au bout de 2 mois... Moi, au bout d'un mois, je suis sortie de l'hôpital puisque j'ai fait un postpartum très violent, puisque voilà, j'ai été internée en psychiatrie juste après parce que j'ai fait un stress post-traumatique dès mon accouchement. Ouais.
Wow.
Mon entrée dans la maternité s'est faite avec une violence sans précédent. Voilà, j'ai fait beaucoup de trucs autour de la santé mentale autour de moi pour encadrer cette entrée dans la maternité. Et elle luttait physiquement pour sa vie, donc pas psychologiquement, mais elle physiquement, puisqu'elle devait survivre. Elle est née à 900 grammes. Donc on a développé artificiellement ses poumons et tout. Donc elle était en couveuse et elle est restée donc 2 mois à l'hôpital. Elle est sortie, elle faisait 2 kilos, mais pour moi c'était un énorme bébé. Mais quand j'ai su qu'il y avait des bébés qui sortent à 4 kilos. Et donc voilà, et donc quand on est sortis de l'hôpital, toutes les deux, donc au bout de 2 mois, donc toujours avant la date supposée de mon accouchement, hein, c'est voilà. Ça, je suis pas directement allée chez mes parents. Donc voilà, donc on était dans un cocon familial. Ouais.
Waouh.
Ouais.
J'en apprends des choses.
Oui.
C'est incroyable.
Oui.
Et surtout, bah, j'avais une question. C'était comment t'es entrée dans la vie de maman.
Mm-hmm.
Mais au final, ça a été très violent, comme
tu
l'as dit.
Exactement.
Est-ce que c'est la précipitation des choses ou est-ce que c'est vraiment la chute d'hormones plus la situation dans laquelle tu étais, ou enfin, est-ce que tu arrives aujourd'hui à expliquer pourquoi?
Oui, alors c'est mon accouchement en fait qui a été très très, l'accouchement en lui-même, vraiment l'extraction de l'enfant de hors de mon ventre, qui a été très très compliqué en salle d'opération, enfin voilà, et en fait j'étais pas du tout préparée à ce qu'il y ait une quinzaine de personnes dans la pièce, qu'il fasse 2 degrés dans une salle d'opération, ça je savais pas qu'il faisait si froid. Lorsqu'on fait une pré-éclampsie, vu qu'on doit contrôler la tension du cœur, on est attaché en croix. Je ne savais pas.
Mais non.
Si, on ne le disait pas. Mais voilà, on est attaché en croix. En fait, c'est des trucs qui sont très violents. C'est très douloureux puisqu'on met des bêta-bloquants pour ralentir le rythme cardiaque. Donc, les bêta-bloquants dans les veines, c'est comme de la glace
qui, en fait, traverse.
Qui traverse les bras. Et donc, beaucoup de personnes qui parlent en même temps. Quand on extrait un bébé du ventre par césarienne, le corps entre en résistance, donc tout ton corps bouge. Donc j'avais tous ces trucs-là, et aussi tout de suite après mon accouchement, ma tension ne remontait pas, et en fait j'étais proche de tomber dans le coma. Donc les médecins se criaient dessus pour essayer entre guillemets de me sauver. Donc en fait j'avais toutes ces images qui me revenaient en permanence, et finalement pas tant mon bébé en fait. Et voilà, donc en fait moi vraiment l'accouchement, c'est pas tant... Enfin, après, ça a été un peu dur, mais vraiment, l'accouchement lui-même a été d'une violence dingue pour mon cerveau à assimiler. Donc voilà, c'était ça qui était le plus dur. Après, quand on est rentré à la maison, j'avoue qu'une autre violence a pris le relais, parce que quand même, tout de suite après mon accouchement, bah, les infirmières néonates, les puéricultrices étaient extraordinaires. Encadrent, font vraiment un cocon autour de la maman et du bébé, favorisent la relation à venir, créent des liens petit à petit, accompagnent. Et ensuite, quand on rentre à la maison, bah, même si j'étais avec mes parents, on est quand même seul face à son bébé qu'on ne connaît pas, qui est un être qui est à part finalement de soi. C'est pas voilà. Et moi, ce qui a été le plus dur, c'est cette même journée qui se répète à l'infini, rythmée par des rythmes de 2 heures. Donc toutes les 2 heures, il faut donner le sein, toutes les 2 heures, il faut faire quelque chose, toutes les 2 heures. Donc on n'a pas le temps de dormir. Et ça, j'y étais pas du tout préparée en fait à ce truc de toutes les journées sont pareilles pendant 3 mois.
Le cauchemar. Pour
ouais. J'adorais l'histoire sans fin quand j'étais petite. Mais alors le vivre en vrai, c'était quelque chose. Ouais.
Waouh. Merci déjà de parler de tout ça, parce que on en parle aujourd'hui du fait qu'il faut briser les tabous sur tout ce qui peut se passer pendant une maternité, pendant un accouchement. Bon, les voix commencent un peu à s'élever,
ouais.
Mais tu vois, par rapport à ta pré-éclampsie et le fait d'avoir été en croix, j'ai jamais entendu ça en fait.
Ouais.
Bon, déjà, je veux pas d'enfant, mais là, franchement, je pense que
j'ai testé, je recommande avec parcimonie. Hein. Savoir dans quoi on se lance.
C'est important en fait de se dire qu'aujourd'hui encore, on doit encore découvrir des choses sur le tas en fait. Alors que c'est une science qui existe depuis la nuit des temps. Je veux dire, t'es pas la première femme à avoir accouché.
Ouais.
Mais non pas dans ces conditions. Enfin, ça me révolte en fait.
Ouais.
Et t'aurais pu ne pas subir ce choc traumatique. Enfin, c'est un traumatisme en fait.
Complètement, ouais. Ben, c'est pour ça que j'ai été encadrée. Mais je pense que si on disait que tous les risques encouru. Si on m'avait dit que c'était possible, parce que juste en fait on me l'a pas dit, je le savais pas. Moi j'ai entendu le nom éclampsie au détour d'un épisode de Downton Abbey, voilà. Donc 2 ans avant de tomber enceinte, donc c'est des maladies de la grossesse qui sont hyper fréquente, parce qu'en fait les médecins eux n'étaient pas particulièrement choqués, mais en tant que femme enceinte on ne l'entend juste pas. Par contre on va nous bassiner sur la couleur des layettes qu'on doit apprendre, et pas du tout sur les risques physiques, moraux, qui sont psychologiques, qui sont encourus avec la grossesse. Donc oui, c'est du bonheur, mais
il y a aussi une réalité.
Exactement. Ouais.
Dont il faut parler.
Et peut-être que même on le vivrait mieux si on nous le prévenait, en fait. Moi, j'ai accouché 1 mois avant le début des cours de préparation à l'accouchement.
Ah oui, donc tu n'as pas eu...
Rien du tout.
T'as tout appris sur le...
Sur le moment. J'avais pas acheté une layette. Enfin, 6 mois. Pour moi, il me restait 3 mois.
Oui, t'avais le temps.
Voilà. Et j'ai accouché presque 10 semaines avant mon terme. Donc, on ne prévient pas du tout, en fait, que le plus important, ce n'est pas les bodies.
Tellement
c'est
pas.
C'est ça.
Alors, j'ai une autre question où là, en fait, je vais te lire une petite citation et tu vas me dire ce que tu en penses. Mmh. Être considérée comme une maman dans un environnement qui n'a rien à voir avec les enfants m'agace au plus haut point. Mes amis et moi sommes des femmes accomplies, talentueuses et complexes. Je pense que c'est quelque chose qui est lié à toi. En tout cas, quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit, mais c'est trop cerise, enfin, dans le sens où c'est pas qu'une maman et elle veut pas être définie que en étant vue comme une maman.
Ouais.
Comment toi, tu as réussi justement à travers ton image publique, montrer toute cette subtilité, parce que c'est ça en fait. La plupart des influenceuses, à un moment, elles sont toutes devenues mamans.
Ouais, et
on voyait que
shift,
des bébés,
ouais.
On voyait que des...
Des postes maternité. Ouais.
Mais toi, comment tu as décidé de te montrer avec cette pluralité en fait?
Bah, parce que j'aime mon enfant de tout mon cœur, mais le job de maman... J'ai pas trop kiffé le truc. Je ne m'épanouissais pas en entier dans ce job de mère là, parce que pour moi c'est un job à temps plein. Hein. Je veux dire, si on prend des nounous et des puéricultrices pour s'en occuper, c'est qu'en soi c'est, bah un, oui. C'est un job. Hein. Et en fait, je ne me sentais pas pleinement moi. Et je me suis dit qu'il devait y avoir aussi un certain nombre de femmes en fait, qui ne se sentaient pas pleinement elles. Je n'étais pas moins... À l'époque, j'étais manager de projet digital dans une énorme entreprise. Là. Bah, je ne me sentais pas que maman. En fait, voilà. En plus de ça, moi, je n'ai jamais eu particulièrement d'affection pour les jeux très, très enfantins. Donc, les gaga-gougous, là, ça me... Enfin, ça me faisait... ça m'embêtait, clairement. Et donc, je me suis dit, mais non, en fait, je n'aime pas moins mon taf. Parce que je suis mère, oui. Je n'aime pas moins les cocktails parce que je suis mère, je n'aime pas moins le sexe avec des oui. avec des hommes parce que je suis mère, je n'aime pas moins les sapes, je n'aime pas moins ouais. les sorties, je n'aime pas moins la musique. Donc pourquoi juste ce pan de ma personne, qui est juste un pan de ma personne, d'être maman, devrait tout absorber sur son passage? Pour moi, ce n'était pas le cas. Donc c'est resté juste une facette de moi. Bah, c'est pas cette importante, puisque en termes de fatigue, par exemple, ça, quand même,
oui,
ça
draine.
Ça draine. Ouais. Et ça, voilà. Mais je me suis dit que quand même, le reste restait important, tout simplement.
C'est une très bonne réponse. Et moi, je prends. Avant de basculer sur la partie liée à la coparentalité et à la monoparentalité que tu vis aujourd'hui, je voulais juste savoir comment ta maman t'a aidé justement à devenir maman, si elle t'a aidé. Parce que, en fait, je suis allée voir le dernier film d'Alice Diop, Saint-Omer, qui m'a transcendée. Enfin, wow. je vous invite à aller le voir.
Ah oui, d'accord.
C'est une claque. Et surtout, bah, ça nous invite à nous demander comment, en fait, en tant que femme, on a besoin de digérer la mère qu'on a eue pour nous-mêmes décider de devenir mère ou pas, en fait. Et surtout, quand on a une maman qui a vécu un exil, qui a souvent vécu un postpartum, mais qui n'en a jamais parlé. Donc, on a peut-être grandi avec des mamans qui étaient dépressives, même déprimées, mm-hmm. en fait. Mais du coup, comment ta maman, elle t'a aidée et...
Alors, moi, ma mère, c'était vraiment la maman poule. Pour le coup, je pense qu'elle, son identité de mère, a tout emporté, mais avec joie. C'était un exemple pour moi, tout en sachant que je n'étais pas comme elle. Ma mère, elle était à quatre pattes dans notre chambre à jouer aux jeux. Elle pouvait jouer 3 heures au Barbie avec nous, parce que j'ai 2 petites sœurs. Et donc, on était vraiment... voilà, ma mère, c'était... Voilà, jusqu'à aujourd'hui, je la considère comme ma meilleure amie. On est vraiment hyper, hyper proches. Et son rôle de maman a vraiment tout englobé. Elle a fait des très hautes études, mais elle a pris un travail de fonctionnaire en baissant elle-même volontairement son statut pour avoir des horaires très très light pour sortir à 16h30, alors qu'elle aurait pu monter, gravir les échelons même de la fonction publique, hein, et travailler beaucoup plus tard. Mais parce qu'elle voulait être là à la sortie des écoles, elle nous emmenait à faire plein de trucs, etc. Donc elle, ma mère, en tant qu'exemple de maman, j'ai vraiment eu l'accomplissement de mère, l'épanouissement total en tant que maman. Mais par contre, ma mère, quand on est devenue ado, là, elle s'est dit « Ok, bon, bah, ça y est, j'ai fait mon job de maman de petite fille. » Et je peux, moi, me retourner vers moi. Et elle a passé d'autres concours de la fonction publique. Et là, aujourd'hui, elle est ingénieure territoriale, etc. Et en fait, moi, adolescente, j'ai vu ça. J'ai vu ce shift de maman, couche, gâteau, jeu, Barbie et tout, à maman, OK, bon, maintenant, je reprends moi, ma qui, vie, moi, je suis. Oui. Voilà. Et en fait, ça m'a complètement inspirée. Je me suis dit, en fait, on peut être les deux. Voilà, donc déjà, moi, ça m'a inspirée. Après, moi, je me suis rendu compte que, ben, en fait, moi, je voulais même pas passer par le stade de Barbie gâteau, mais que c'était totalement ouais. OK, en fait. Donc, elle m'a vraiment poussée dans ce sens-là, ouais. Elle aussi. Forcément, elle n'a pas sa part de maman poule. C'est, du coup, déporter sur ma fille. Oui. Et donc, elle est une mamie, donc on l'appelle Nona. Comme en italien. Nona gâteau, voilà. Donc, ma fille peut rester dans sa chambre à jouer à la dinette et tout avec ma mère pendant des heures.
Wow.
Et en fait, je me dis, bah, c'est très bien. Ouais. Elle m'aide, elle me permet à moi de penser à autre chose.
Oui,
j'ai l'esprit tranquille. Ouais. Et je dis souvent que, en fait, ma fille a deux mamans. Et je suis vraiment hyper à l'aise avec ça parce que du coup, moi, ça me décharge psychologiquement de la charge que ça peut représenter, ouais. En fait. Voilà.
Et du coup, c'est très bien parce que ça permet de faire la transition sur comment tu arrives à gérer justement ta monoparentalité aujourd'hui. Et donc, je pense qu'il y a un élément de réponse, c'est que tu es bien entourée
ouais. Aussi. Exactement. Et que j'ai fait un enfant avec un monsieur qui s'est avéré être un très très bon papa. Ça n'a pas fonctionné entre nous, mais au moins il est là pour sa fille, oui. Il aime sa fille de tout son cœur, ouais. Et surtout il se met en œuvre en moyen d'être vraiment un bon papa,
oui. Un
vrai papa à part entière, oui. Pas juste pour les bons côtés, pas juste pour le câlin du soir. Voilà, il n'était pas là au début puisqu'on était en relation à distance, donc les deux premières années de la vie de ma fille. Il venait autant qu'il pouvait, mais ce n'était pas beaucoup, parce qu'il pouvait pas, parce qu'il était étudiant aux États-Unis. Mais ensuite, il est venu en France et il a voulu apprendre tout. Donc maintenant, quand moi, je l'envoie en vacances chez son père, parce que maintenant, lui, il est parti depuis 2 ans vivre en Côte d'Ivoire. Il est resté qu'un an en France.
Okay.
Et donc, il est depuis 2 ans en Côte d'Ivoire, donc je l'envoie pour les vacances scolaires. Moi, à partir du moment où j'ai l'info qu'elle a atterri à Abidjan,
t'es tranquille.
C'est fini. Je n'ai plus du tout à y penser parce que je sais que lui, c'est moi.
Ouais,
il gère, connaît sa fille autant que moi, dans tous les petits détails. Ça va être même les noms de ses copines, le nom des maîtresses. Enfin, et de le dire comme ça, ça peut être un peu anecdotique. Mmh. Mais quand on regarde sur Twitter et qu'on voit des fois
les histoires des papas
qui sont plus des oncles éloignés que le père des enfants, ben là, pour le coup, lui, voilà, il sait toutes ses allergies, tout où elle en est, le nom de son médecin, tous ces trucs, autant que moi. Et donc, j'ai vraiment pas de soucis à me faire. Donc, c'est en ça que j'ai vraiment placé une vraie coparentalité efficace.
Oui.
Je sais qu'il n'y aura pas de trucs bizarres. Mmh. Voilà, je ne me fais pas de soucis. Mais quand même, clairement, il n'a que les vacances.
Oui.
Il ne faut pas quand même perdre ça de vue.
Oui.
Où il a toutes les vacances, mais que les vacances.
Ouais.
Et que moi, j'ai tout le quotidien, toute la charge mentale qui incombe au quotidien.
Exactement.
Avec les allers-retours à l'école.
Il
n'y a pas encore de devoirs, mais ça viendra.
Ça va venir,
Et les allers-retours au sport, parce que mademoiselle fait de la gymnastique. et aussi les petits chagrins du quotidien, les petits aléas, les fatigues, les crises, les évolutions, les questions, tout ça, c'est moi. Et voilà, lui, il a the fun part.
Oui.
Parce que dans les vacances, tout le monde est content. Et voilà, on peut manger autant de sucreries qu'on veut. Et quand on rentre à la maison, maman, c'est les légumes.
Oui.
Voilà, donc il y a quand même ça qui n'est pas négligeable.
Ouais.
Où on est quand même sur du 80-20.
Oui.
Parce que les vacances, même si c'est toutes les 6 semaines pendant 2 semaines, c'est toutes les 6 semaines.
Exactement.
Les 6 semaines, c'est moi.
Oui.
Et donc voilà, donc c'est pas fastoche. Mais je me dis toujours que ça pourrait être pire.
Et est-ce que au moment de choisir la garde, c'était toi, t'as dit no way, c'est moi qui prends la garde totale?
Non. Alors pendant un an, on était en garde partagée ici en France, et en fait, on avait clairement divisé la semaine en deux. Donc toujours quand on voyait nos, parce qu'on avait fait un calendrier. Quand les gens voyaient un calendrier, waouh, c'est hyper compliqué, mais en fait pas du tout. Moi, j'avais le lundi et mardi. Lui, il avait le mercredi et jeudi.
Ouais.
Et ensuite, le vendredi, samedi, dimanche, c'est le week-end en entier.
Okay.
Et c'est un week-end sur deux.
D'accord. Donc, okay.
Comme ça dit, comme ça, ça peut être un peu compliqué. Mais en gros, on a dans le mois, parce que c'est à l'échelle du mois, on a exactement le même nombre de jours, exactement le même nombre de week-ends. Et donc, en fait, c'est comme ça qu'on s'est fixé à la base. Donc, quand il vivait en France, c'était ça pendant un an. Et ensuite, il est parti. Et pour moi, c'était normal que, vu son âge, elle avait 3 ans, c'est normal qu'elle reste avec sa maman.
Oui.
Je pouvais pas, moi, me détacher de mon bébé que j'ai mis que 6 mois à créer. Et Eloi, elle a été scolarisée ici en France. Lui, il partait pour un nouveau poste. Pour moi, c'était obligé et ça s'est décidé comme ça, ouais, de manière naturellement, oui, instinctivement, qu'elle resterait avec moi. Mmh. Et voilà. Tout simplement.
C'est génial.
Ouais.
Enfin, c'est une belle histoire. Enfin, ouais, ça, il faut en entendre parce que souvent, c'est
très des déchirements,
c'est, ouais, conflictuel. Et l'enfant est au milieu de tout ça, ouais, il n'a rien demandé. Enfin, donc, bravo à vous d'avoir réussi à créer une sorte de paix, ouais, à la maison.
Ça a pu être conflictuel, on ne se sépare, oui, pas, oui, dans la paix de l'âme. voilà. Mais on a su la préserver au maximum et aussi, on l'a très encadrée dans le sens où on a été voir un psychologue pour enfants, un pédopsie. Parce que quand on a pris la décision, on a voulu aller d'abord la rencontrer, mmh, poser les questions, comment on annonce,
oui,
ça
à son enfant.
Et ensuite, on lui a pris des séances après elle toute seule pour être sûre que ça se fasse bien, en fait, que ça se passe bien. Donc, on a vraiment mis toutes les chances de notre côté, mais pas en ne reposant que sur nous. On en a parlé avec une psy qui nous a donné, entre guillemets, des éléments de langage,
d'accord,
à utiliser avec elle, une manière de l'approcher, et les éléments de langage aussi à donner à nos proches.
Oui.
Parce que des fois, en fait, un enfant vit dans un village,
oui,
il faut que tout le monde soit briefé sur les choses à dire et, ouais, à ne pas dire, qu'il n'y ait pas de méchant, il n'y a pas de,
oui,
camp, tout,
oui,
le monde est OK.
Ouais.
Et voilà, surtout qu'on vivait ensemble, c'est lui qui a pris un nouvel appart, donc pas utiliser des termes comme papa est parti, enfin,
oui,
ce genre de truc-là, où, voilà, tu parles plutôt parler de deux maisons,
oui,
voilà. Et que tout le monde, tous les proches, utilisent les mêmes,
oui,
termes pour sécuriser l'enfant. Et voilà, et aujourd'hui, en fait, elle vit, je ne vais pas dire hyper bien, parce que je pense que de toute manière, on ne le vivra jamais hyper bien, mais bien, en fait, cette séparation, puisque c'est complètement sa réalité. En fait, elle a vécu plus de temps comme ça que...
Oui, avec,
voilà,
les deux parents,
voilà,
à la maison. Ouais.
Exactement. Donc, pour elle, en fait, c'est juste une normalité d'avoir deux maisons. Pour elle, là, aujourd'hui, sa tristesse, c'est que son père ne vive plus en France. Mais pas qu'il ne vive plus chez moi.
Oui.
Qu'il ne vive plus en France et qu'en fait, elle ne le voit plus dans la semaine.
Oui. Oui.
C'est ça, en fait, là, sa tristesse repose là. Et pas tant sur le couple, le feu couple de ses,
oui,
parents. Elle ne s'en rappelle pas du tout.
Ouais.
Que sur
c'est
les photos. Mais c'est des souvenirs construits.
Ouais. Et j'aime bien, en fait, le fait que tu rappelles l'importance des mots, de la place de l'entourage et de tout cet ancrage, en fait, que du coup, si on utilise des termes, et ben, ça peut aussi l'influencer, donc comment elle va,
ouais,
vivre la situation.
Ouais.
Je pense que c'est des super tips que du coup, d'autres personnes qui peut-être vivent la même situation, mmh, peuvent prendre en compte et surtout se faire accompagner, en fait.
Ouais.
Parce que même pour vous, c'était nouveau. Donc, c'est normal, en fait, d'avoir quelqu'un de professionnel.
Exactement, surtout de faire appel à un,
ouais,
professionnel.
C'est
parce
ça.
Que, bah, c'est une surprise pour tout le monde. Enfin, personne n'est préparé à ça, même les principaux intéressés.
Oui, c'est ça. Mm. Donc, merci pour ce partage. Maintenant, j'aimerais parler un peu plus de ta journée à toi. Genre, c'est quoi une journée type,
oh.
Même si j'ai un peu les coulisses parce que je suis ta page. Mais comment tu jongles au quotidien entre bah, justement ta journée de maman et ta journée de femme slash... Slasheuse.
Slasheuse, exactement. Je pense comme toutes les mères actives, hein, finalement, réveiller très tôt pour se préparer soi-même d'abord. Et en fait, finalement, moi, c'est simple. Je ne peux pas... J'ai besoin d'un cadre et d'une organisation militaire, autant pour moi que pour elle. Comme ça, il y a très peu de place au glissement,
ouais,
et à l'improvisation. Comme ça, au moins, voilà, on est toutes les deux très sécurisées sur ça.
Ouais.
Donc, en fait, il y a des routines fixes avec,
oui,
des horaires fixes. Et comme ça, ça évite voilà, les paniques, etc. Et, donc, voilà. Donc, bah, du coup, je me réveille très tôt. Moi, je me prépare. Ensuite, je la prépare. Heureusement,
oui,
je travaille de la maison. Donc, même s'il y a des petits retards de réveil, je peux enfiler, non pas un pyjama, mais on va blaguer un peu les maîtresses avec un legging, hein, un petit sweat. Et voilà. Et je la dépose à l'école. Et ensuite, je reviens à la maison pour me préparer. Ou alors, je vais faire les courses. Ça dépend de là où on se situe dans la semaine. Et comme ça, les mamans qui travaillent à la maison savent que les courses à 10h, c'est parfait. Il n'y a personne au supermarché. et je rentre et là en fait du coup bah, je commence moi mon travail. Heureusement aujourd'hui j'ai un agent, donc du,
oui,
coup j'ai plus à gérer forcément mes emails,
ouais,
mais j'ai des to-do list à faire,
ouais,
Et voilà, donc la matinée, souvent, c'est les to-do list. L'après-midi, ça va être les rendez-vous, ouais, les allers-retours sur Paris, ce genre de trucs, ou les tournages vidéo, ouais, ce genre de choses-là. Ma fille est scolarisée en école Montessori. Donc, du coup, j'ai la chance de pouvoir venir la chercher dans un horaire qui est une plage horaire qui est assez large. Oui. Donc, c'est à partir de 16h30 jusqu'à 18h30,
oh, c'est
quand
génial,
je veux.
Wow.
Donc, je n'ai pas de stress, il faut, ouais, venir à telle heure, pile, sinon le portail est fermé. Donc, voilà, depuis cette année, c'est super cool. Ouais. L'année dernière, c'était un peu plus coton parce que c'était 17h20 et bien souvent, ouais, je pilotais, ouais, sur l'autoroute, je me garais en trombe devant le portail, je suis désolée. Et voilà, là je peux venir la chercher et donc le goûter, on rentre, voilà. Après, moi je sais que j'ai beaucoup lâché sur la télé parce que je suis une mère célibataire et que je ne peux pas l'occuper elle, oui, entièrement, oui, et aussi faire les autres choses. Ouais. Donc, la tablette, c'est mon, oui, allié. Je, oui, suis obligée. Donc, Netflix Kid, ouais, voilà. J'essaie de mettre des programmes qui vont lui apprendre des choses. Donc, pas, oui, que des dessins animés, entre guillemets, bêtes, oui, ou infantilisants. Mais en même temps, je me dis, elle a fait toute sa journée, entre guillemets, oui, de travail, elle aussi, d'école. Oui. Elle a le droit de regarder
de
la télé.
Ouais, ouais.
On regardait les mini-cums, mmh, nous. Donc, franchement, elle a le droit. Donc, voilà. Donc, du coup, souvent, je la mets devant la télé parce qu'en fait, bah, je dois préparer le repas.
Ouais.
Et je peux pas, entre guillemets, l'avoir dans mes pattes.
Oui.
Parce que, voilà, les enfants, c'est maman, 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 regarde. Et juste, elle lève un bras et waouh, bravo. Je rappelle que je suis pas une maman gâteau. Hein. Donc, très vite, au bout du deuxième maman, ça y est, moi, j'attends ma limite, là. Et aussi, j'ai tourné ma journée, j'ai tiré ma journée. Ouais. Je suis fatiguée.
Ouais.
Donc je fais à manger, elle mange, 19h, il est à peu près 19h30, 19h45, je la lave, elle appelle son papa pour dire bonne nuit, discuter peut-être 20 minutes sur la tablette avec son père, et ensuite dodo, et de là moi, soit j'ai le temps de ranger la maison, faire le ménage, ranger toutes les choses,
ouais,
voilà, manger moi aussi peut-être sur le pouce si j'ai pas eu, ouais, le temps de manger avec elle, et finir en fait ma journée de travail,
ah,
scripter,
ouais,
la journée de demain si je vlog, enfin... Voilà, le travail, et ça se termine, ouais, souvent aux alentours de minuit, 1h du matin.
Oh là là.
Parce que bah, tout se joue le, ouais, bah, le soir, hein, finalement, parce qu'il y a du silence,
ouais,
parce que c'est plus posé, parce que je peux prendre le temps,
ouais,
de, si je n'ai pas couru dans la voiture, oui, dans les rendez-vous. Et en fait, bah, tout se joue la nuit. Voilà, même ça va être étendre le linge, sécher le linge, lancer les,
ah,
machines,
ouais,
donc, voilà, passer la serpillière...
Le soir,
mais
t'as,
oui,
pas dit qu'il fallait pas faire ça le soir.
Oh là là, parce que pour que la maison soit nickel, parce que bah évidemment moi je vis de l'image de ma vie en fait,
oui,
du lifestyle de ma vie.
Il faut que tout soit nickel.
Voilà, ouais, un minimum, et donc voilà, j'ai en fait j'essaye d'organiser la journée du lendemain,
oui,
la veille,
ouais,
et souvent bah ça passe par ça en fait,
oui,
par le fait de cleaner ma vie perso pour faciliter ma vie,
oui,
professionnelle. Voilà, donc ça tourne
ça
un
joue,
peu comme,
ouais,
ça en circuit.
On, ouais, s'en rend pas compte. Hein.
On s'en rend pas compte.
Non, on se dit, bon, bah, je sais pas, elle l'a fait avant de faire la vidéo.
Ouais.
Mais non.
Mais non, c'est passé plein de choses entre temps.
Et du coup, est-ce que le fait d'aujourd'hui être à ton compte, de gérer ton temps, est-ce que justement le fait d'avoir quitté ton CDI pour te consacrer à 100% à ton activité de créatrice de contenu, c'est un choix aussi lié à ta maternité ou pas du tout ?
Pas du tout. J'ai fait un burn-out professionnel dans ma carrière et en fait, donc ça s'est arrêté. Donc j'avais déjà ma fille, hein, mais ça s'est donc arrêté très brutalement. Bah, c'est là que j'ai commencé mes séances de psy d'ailleurs,
oui,
pendant ce burn-out.
Mm-hmm.
J'ai quand même cherché à reprendre du, à,
ouais,
chercher du boulot, mais c'était psychologiquement. Il n'y avait rien qui me plaisait autant, mm-hmm, que ce que je faisais,
ouais,
de ma passion.
Oui.
Donc j'ai tenté le coup sur 6 mois, ça l'a fait et du coup, voilà, ça fait 3 ans. Mais incontestablement, c'est plus simple,
oui,
aussi. Déjà en coup de nounou,
ouais,
parce que voilà, à supporter, et aussi en temps passé,
ouais,
de qualité,
oui,
avec mon
elle,
enfant,
ouais,
voilà, je peux me poser entre guillemets n'importe quel jour dans la semaine,
oui,
pour passer un, mmh, petit peu de temps avec elle. Voilà, c'est sûr que ça facilite,
ouais,
les choses d'être à son compte, de pouvoir être là au spectacle,
mmh, mmh,
etc., sans avoir à reporter un chef,
oui,
à devoir gérer aussi ce truc d'être maman, puisque j'étais maman pendant un an et demi, deux ans ouais. avant de faire mon burn-out pro. Et donc, bah, j'ai vécu avec cette image de c'est la maman qui part à 18h, oui. elle part trop tôt. Ah, mais non, mais en fait, elle pourra pas être là à la réunion 19h, mais tu comprends, Cerise, elle est maman. Comme si.
C'est avec un truc. La mine.
Ouais, genre, la pauvre. Et donc, oui, incontestablement, c'est plus simple. Je vais pas mentir. Ouais. C'est challengeant par d'autres. Ça se fait parce que bah, je bosse pas, j'ai pas d'argent, je peux pas subvenir aux besoins de mon foyer.
Tu dois bien bosser à chaque fois.
Voilà, et c'est autodiscipline en fait. C'est voilà, comme dans un CDI, on bosse aussi, mais là c'est l'autodiscipline qui fait. Il y a pas de sanction immédiate au fait de procrastiner quoi. voilà. Donc ouais, je sais plus si j'ai répondu à la question.
Non, c'est très clair, c'est très clair. Et du coup, je pense que c'est intéressant de se dire qu'il y a d'autres modèles, que bah tu t'es écouté. Je pense que dans ton histoire, ce que je retiens, c'est que tu t'es écouté au final beaucoup. Oui. Et c'est rare.
J'ai appris, mais voilà, le burn-out, ça a bien prouvé que je ne m'écoutais pas et que mon corps m'a dit tu vas m'écouter. Je vais te mettre KO, couché, tu pourras plus bouger et là tu vas m'écouter.
Moi, ce que je voulais te dire, c'est que ben, merci d'exister et de permettre en fait d'avoir cette pluralité en fait que tu proposes. En plus, je crois que tu l'as dit aux Adicom, enfin, quand tu es arrivé sur le marché, enfin, dans le
sur le marché de l'influence.
De l'influence, y avait personne comme toi. Mmh. C'était que des influenceuses beauté, mode. Et du coup, toi, tu as vraiment apporté ce truc humain de développement personnel. On le voyait qu'aux États-Unis ou en Angleterre, en fait. Donc, bravo.
Merci.
Et moi, de par ma casquette de créatrice de contenu, je trouve que tu es un bel exemple, en fait, de justement apprendre à trouver l'équilibre entre cette création de contenu et sa vie. Et du coup, ce que je voulais te dire, c'est est-ce que tu as un dernier conseil à donner à une femme, pas forcément maman, hein, qui justement aimerait prendre le temps de s'écouter et d'arriver à jongler avec les aventures de la vie?
je pense que le conseil que je donnerais, c'est de chaque soir se redemander qui je suis, moi, décorrélé de tout, c'est-à-dire de toutes les casquettes, sans chapeau, sans rien, qui je suis, moi. Donc, je ne suis pas qu'une maman, mais je ne suis pas que, je sais pas, une manager ou qu'un truc par rapport à mon boulot. Je ne suis pas que la fille de, la femme de, la copine et l'amie de. Mais qui est-ce que je suis, moi, pour pouvoir ensuite mieux mettre la casquette, mais savoir sur quoi, en fait, on le met. Et savoir, et du coup, ne pas se laisser bouffer par ces différentes fonctions qu'on habite en permanence dans la journée ou dans l'année. Ou... Je pense qu'on vivra mieux les choses plus sereinement, de savoir aussi de voir les choses qui vont altérer notre identité. C'est-à-dire, oui, je deviens maman, mais je ne suis pas à la base une maman. Ça peut devenir une partie de mon identité, mais pas que, parce que c'est quelque chose que j'ai rajouté ensuite. Après, ça peut devenir une grosse partie. C'est à soi, après, de pouvoir juger et de se choisir. Mais de bien, à chaque fois, se redemander qui est-ce que je suis profondément, comment est-ce que je vis les choses, se poser, en fait, à chaque fois, et prendre le temps de sonder son être profond. Et c'est pas facile, souvent, parce que y a beaucoup de bruit.
Oui.
Il y a beaucoup de ce que les gens aussi envoient sur soi. Ouais. Voilà. Mais de prendre un petit temps. Mais en plus, c'est même pas... parce que moi, j'ai installé des tonnes d'applis de méditation sur mon téléphone que je n'ai jamais ouvert. Mais ça peut être... je donne des trucs vraiment très pragmatiques. Mais ça peut être sous la douche. Ça peut être aux toilettes. Même si c'est les 3 minutes qu'on reste dans les toilettes. De se redemander, genre, 2 secondes, est-ce que ça me plaît vraiment ? Pourquoi est-ce que je le fais ? Est-ce que, qui je suis moi-même ? Est-ce que c'est toujours en accord avec ce qui je suis ? Est-ce que je suis OK avec la place que ça prend ? Mais voilà, mais vraiment, et le fait d'être mère, et le fait d'être d'avoir responsabilité professionnelle, d'être aspirée des fois par les responsabilités familiales même, ça permet en fait de pouvoir être, ne pas se sentir glissée vers des choses qu'on n'a pas forcément envie, vers lesquelles on n'a pas envie de glisser finalement. Ouais. Voilà. Donc mon conseil, c'est de pas oublier qui on est. C'est un peu bateau de dire comme
non,
ça.
Non, mais c'est aujourd'hui, mais, c'est de plus en plus dur.
Hein. Ouais, voilà. C'est de plus en plus dur d'être, de ne pas se sentir aspiré par ses envies ou par les projections des autres.
Oui.
C'est mon premier conseil.
Je voulais savoir si, du coup, par rapport à ce dont tu parlais, par rapport à ton SOPK maintenant, où est-ce que tu en étais? Et comment tu le vivais aujourd'hui? Et est-ce que tu reconsidères... Enfin, j'ai bien compris que tu n'étais pas une maman gâteau et tout ça. Mais est-ce que tu, quand même, reconsidères l'idée de redevenir maman ou ce n'est pas du tout un sujet?
Alors, par rapport à mon SOPK, bah, il est toujours là. J'ai arrêté la pilule depuis 2 ans. Donc, j'avais quand même repris la pilule après mon accouchement. Et en fait, j'en avais marre de tous les effets des hormones sur moi. C'était surtout au niveau mental que ça m'affectait beaucoup. Mon SPM, syndrome prémenstruel, était très violent. Et donc, du coup, j'ai complètement arrêté. Et ça me permet de me rendre compte vraiment de la place de ma maladie. Je fais beaucoup d'aménorrhées et ce genre de trucs. Mais comme je ne suis pas dans une dynamique, finalement, d'avoir des enfants, maintenant, je me dis, bon, bah... Tant pis, ça qu'à vivre, voilà, des fois j'ai des cycles hyper réguliers, des fois c'est la catastrophe, mais je sais pourquoi, parce que je suis fatiguée ou parce que je suis contrariée, ce genre de truc. Donc ma maladie, je vis avec, et après il y a plein d'autres effets beaucoup plus compliqués. Je sais que moi, il est relativement soft, je sais qu'il y a des personnes qui ont de l'hirsutisme, donc des poils jusque sur le visage, sur le corps, beaucoup, etc. Donc moi, j'ai pas ce problème-là, a priori. Ou des problèmes d'obésité, par exemple, ou de poids qui ne sont pas forcément voulus. Enfin, je veux dire, voilà, plus que n'importe quelle personne, etc. C'est pas lié à, on va dire, des excès de nourriture. Moi, j'ai pas non plus ce problème-là. Donc, je veux dire, je suis pas la meilleure déléguée du SOPK pour en parler parce qu'il est quand même assez soft, on va dire. Mais après, par rapport à ma question d'envie d'enfant, non, c'est pas du tout ma priorité. Ça y est, ma fille commence à me dire, je veux une petite sœur, machin, machin. Parce que ses copains et copines ont des petits frères et des petites sœurs. Moi, par manque de candidats fécondateurs. De fait, il n'y a pas de deuxième, mais c'est pas non plus. Je suis assez à l'aise avec l'idée d'être la maman d'un seul enfant. Et en fait, je me rends compte que si j'ai envie d'en faire un, l'idée, c'est plus pour elle. Alors que, enfin, on ne fait pas un enfant pour un autre enfant. Donc, de fait,
non.
Voilà.
En tout cas, merci Cerise.
Avec plaisir.
D'avoir pris le temps d'échanger.
Merci beaucoup de m'avoir invitée.
C'était hyper intéressant. Même le fait de ne pas être maman, j'apprends des choses en fait en ayant écouté cette interview.
Ah, top.
Et j'espère que ça va plaire à l'audience. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à échanger avec nous sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, tu as donné ton...
Ah non, c'est @cerisedaily.
Oui, voilà.
Merci à Shemona de nous avoir permis d'enregistrer dans leurs locaux. Merci à Cerise pour ce témoignage. Pour suivre les actualités du podcast, abonnez-vous à la newsletter Tant que je serai noire sur Substack. Ou suivez-nous sur Instagram. À bientôt.